Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Seigneur mon Dieu, nous te remercions, car tu règnes dans la gloire. Tu es le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Seigneur, nous t'aimons. Nous t'aimons, Seigneur, mais aide-nous, Seigneur, vraiment à t'aimer. Non pas seulement en parole, mais Seigneur, en réalité. En réalité, par des actes qui consistent à t'obéir. À t'obéir, à se soumettre à ta volonté. C'est ainsi, Seigneur, que nous démontrerons notre amour pour toi. Car toutes tes exigences, tout ce que tu nous demandes, Seigneur, ce n'est pas une fantaisie, loin de là. C'est pour notre bien, parce que tu nous aimes et tu veux nous sauver. Ici-bas, sur cette terre, tout est vanité et poursuite du vent. Père, tu nous offres les valeurs éternelles. Mais pour cela, Seigneur, il y a des conditions. Aide-nous, Seigneur, à nous soumettre à ces conditions. Ô mon Dieu, tu nous as tant aimés. Nous voulons te aimer en retour. T'obéir, marcher avec toi. Merci, Père. Veuille nous enseigner encore ce matin par ta parole est la vérité. Seigneur, tu viens bientôt. Tu viens bientôt pour chercher les tiens. Nous t'attendons, Seigneur. Nous t'attendons. T'attendons. Viens, Seigneur Jésus. Viens bientôt. Pour une vie sans fin. Pour une vie sans fin. Est-ce irraisonnable qu'une telle phrase? Une vie sans fin. Personne dans le monde n'est sûr, véritablement sûr, d'une vie après la mort. Peut-être, on espère. Il y en a d'autres qui croient à la réincarnation. Ils pensent que voilà, après cette vie, si on a bien vécu, on va être réincarné peut-être dans un animal, dans un insecte, quoi donc? Quoi donc? Quelles sont ces sottises? D'autres, ils espèrent pouvoir aller au ciel, comme on dit. Aller au ciel. Aller au ciel, j'essaye, j'espère. Nous ne pouvons pas nous baser sur un essai. Nous ne pouvons pas avoir de l'incertitude. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, dit la parole de Dieu. Une seule fois, pas deux fois, pas trois fois, une seule fois. Après quoi vient le jugement? Le jugement. Dieu va nous évaluer. Qui que nous soyons, ceux qui ont marché dans le bien, ceux qui ont marché dans la vérité, ceux qui ont passé par la croix, ceux qui sont nés de nouveau, il va les évaluer quant à leur fidélité, quant à leur obéissance, quant à la vérité qu'ils ont proférée et qu'ils ont démontrée. Et les autres seront aussi évalués quant à leur rébellion, quant à leur méchanceté. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Il n'y a pas un homme sur la terre qui n'aura à rendre compte devant Dieu. Il n'y a pas un individu sur ce globe, soit dans les âges passés, soit dans l'âge présent, soit dans le futur, qui n'aura pas de compte à rendre à Dieu. À cause de sa façon de vivre, à cause de ce qu'il a cru ou pas cru, à cause de ce qu'il a accepté ou n'a pas accepté. Dieu n'est pas indifférent à notre destinée, Dieu n'est pas indifférent à notre vie, Dieu n'est pas indifférent à la façon dont nous vivons. Non. Et cette terre n'est que pour un temps.
Tout ce qu'il y a sur ce globe terrestre passera. Et cette terre passera. Tout ce qui est physique n'est que temporel. Certaines choses restent et demeurent pendant quelques centaines et même milliers d'années, mais elles ne sont pas moins poussières que les autres qui passent plus rapidement. Rien ici-bas ne restera. Et la Bible nous dit que cette terre même va être détruite par le feu. À cause du péché, tout est imprégné de péché dans notre monde. Toutes les actions des hommes représentent, sont salies par le péché, la souillure du péché. Nous voyons ce péché qui s'étale partout, à tous les niveaux. L'homme arrive à faire des inventions extraordinaires. Dieu lui a donné une intelligence extraordinaire, c'est vrai. Cette intelligence qu'il manifeste, ce savoir qu'il manifeste et qu'il développe de plus en plus, ne vient pas de lui-même, mais vient de lui, dans l'homme, un potentiel. Mais comment gère-t-il ce potentiel? Et même lorsque l'homme arrive à faire quelque chose de valable, qui l'aide dans sa vie de tous les jours, ce quelque chose de valable est toujours pollué par le péché. Il y a toujours un aspect de bien et un aspect de mal dans son utilisation, quelle que soit cette utilisation qu'il en fait. Et régulièrement, tout ce que l'homme fait est pollué par le péché. Non, rien n'est bon. Rien n'est bon. Le péché est la maladie du monde, la maladie de tous les individus sur cette terre. Combien d'hommes et de femmes s'entêtent dans leur péché? Dans leur intellectualisme supérieur, ils pensent mieux savoir. Mais jamais ils n'ont eu l'honnêteté de s'arrêter et de réfléchir et de mettre leur vie en ordre devant Dieu. La conscience parle, mais ils résistent à leur conscience. Pour une vie sans fin. Est-ce quelque chose qui va, qui est réel, qui va se passer? Une vie sans fin, alors que nous vivons dans le fini. Tout commence et tout finit un jour et retourne à la poussière. Plus ou moins vite, mais retourne quand même à la poussière. La plus belle voiture retournera à la poussière, à la rouille. Et tous les accomplissements des hommes vont vieillir et se détériorer. Rien n'est éternel ici-bas sur la terre. Et pourtant Dieu nous appelle à l'éternité. Allons-nous refuser cette éternité qu'il nous offre? Une vie sans fin. Une vie sans fin. Pour cela, il a fallu que Jésus vienne dans ce monde et qu'il porte notre péché. Il fallait dans la justice de Dieu que quelqu'un prenne la punition du péché sur lui. Un homme ne pouvait pas mourir lui-même pour son propre péché, puisqu'il est pécheur. Il fallait un juste, un pur, un saint, pour satisfaire la sainteté de Dieu et la justice de Dieu. Où était-il cet homme? Nulle part dans ce monde et sur cette terre. Privé de la gloire de Dieu, vivant dans la vanité. Aucun ne pouvait y parvenir à cette vie éternelle. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus, qui a pris un corps tel que le nôtre, qui a annoncé la délivrance, le péché, le salut, qui a lutté contre l'hypocrisie des religieux. Le résultat est qu'ils l'ont haï à cause de la vérité. Et les religieux l'ont livré aux païens pour être crucifiés. Dieu le savait, mais Dieu l'a voulu ainsi et l'a accepté, car il fallait que le juste meure pour payer la rançon. Personne ne le comprenait alors, personne. Mais Quand il est sorti du tombeau, les yeux se sont ouverts. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le péché. Il a vaincu Satan. Quand il est sorti du tombeau, triomphe et victoire. Espoir pour l'homme perdu. Espoir, pardon, vie éternelle. Une vie sans fin. Nous avons parlé tous ces derniers dimanches sur toutes sortes d'aspects de la fin de ce monde, cette fin qui approche très, très rapidement. Nous avons parlé aussi de la punition éternelle, sujet duquel on n'aime pas beaucoup parler, sur un sujet sur lequel on ne prêche pas beaucoup de sermons, et pourtant sujet qui a autant de place dans la Bible que le salut qui nous est offert gratuitement par le Seigneur. Nous avons parlé que dans cette ville qui descendra du ciel, que dans cette résidence de Dieu et de ses enfants, il n'entrera rien de souillé, ni personne qui s'adonne à l'abomination et au mensonge, mais ceux-là seuls qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Rien de souillé, rien de sale, personne qui s'adonne à l'abomination et au mensonge. Je vous l'avais dit dimanche dernier, j'avais demandé qui n'a pas menti, qu'il se lève. Personne ne s'est levé. Merci pour l'honnêteté. Donc personne ne peut être sauvé. Tout le monde a besoin du salut et du pardon, tous. Nous en avons parlé largement dimanche dernier. J'aimerais vous parler de cette vie sans fin. Lisons ensemble dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 à 18. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 à 18. Nous lisons ceci. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Voilà. Et je crois qu'aujourd'hui, avec ce qu'on va dire, vous ne serez plus dans l'ignorance. Dieu ne veut pas que nous soyons des ignorants, alors qu'il a prévu que nous sachions beaucoup de choses concernant l'avenir. Nous n'avons pas besoin d'aller vers les charlatans, les soi-disant prophètes, les voyants et que sais-je, pour connaître l'avenir. Ceux qui vont vers ces gens-là se mettent sous un joug et ils se lient. Ils sont dans l'abomination. Lisons la parole de Dieu. Cette parole nous aide. On ne joue pas avec les choses des ténèbres. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Ceux qui dorment. Nous disons dans le monde ceux qui sont morts. Mais là, il est dit ceux qui dorment. Lorsqu'on parle de ces choses, de la fin de la vie d'un homme ici-bas sur la terre, les hommes disent « il est mort ». Non. Pour l'enfant de Dieu, c'est le passage d'un état à un autre. C'est le passage à la vie, petit V. À la vie, grand V. Cette vie, elle passe, elle est éphémère, elle est poussière. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Elle est une préparation pour l'éternité. Une vie sans fin. Une préparation pour l'éternité. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Ceux qui n'ont pas d'espérance, quand la mort a frappé dans leur famille, regardez-les. Ils se roulent par terre, ils pleurent, ils crient, ils déchirent leurs vêtements, ils mènent deuil, ils ne mangent pas pendant plusieurs jours, ils sont là, etc. Et ils n'arrivent pas à se consoler, etc., etc. Pourquoi? Oh, je ne le verrai plus. Moi, je sais que je le reverrai. Je reverrai celui qui est mort et qui est mort selon le monde, mais qui, selon Dieu, a passé de la vie à la vie. Bien sûr, je ne le reverrai plus sur cette terre. On regrette un peu, pourquoi pas. Mais dans mon cœur, il y a un espoir immense. Je sais que je le reverrai, que je la reverrai. Alors, comme les autres qui n'ont pas d'espérance, j'ai une espérance. Et c'est une espérance qui est une certitude. Ce n'est pas un peut-être, mais c'est une certitude. On a ce mot qui dit espérance, mais dans le fond, cette espérance, dans la parole de Dieu, est plus qu'une espérance du monde. L'espérance, c'est peut-être, peut-être pas, selon le monde. Mais l'espérance, selon Dieu, c'est une certitude. Il faudrait trouver un autre mot. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi par Jésus, ramènera aussi par Jésus et avec lui ceux qui se sont endormis. Dieu ramènera par Jésus. Il n'est pas dit ramènera par la religion, par la philosophie. Il n'est pas dit il ramènera par le pentecôtisme, par le catholicisme, par le bouddhisme. Non! Ramènera par Jésus. Par Jésus. Dieu ramènera aussi par Jésus et avec Jésus. Alléluia! Pas sans lui, avec lui. Avec Jésus, ceux qui sont endormis. Ceux qui meurent dans la foi, ils sont endormis. Voilà, c'est tout. Ils sont endormis. Voici en effet ce que nous vous déclarons, d'après une parole du Seigneur. Ce que nous vous déclarons, d'après une parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont endormis. Alléluia. Nous ne devancerons pas ceux qui sont endormis. Dans la poussière. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Tous ces morts à travers les âges qui sont morts en Christ. Les morts de l'Ancien Testament qui sont morts en Christ. Comment Christ n'était pas encore révélé à ce moment-là? Non, c'est vrai. Mais, il était annoncé. Et leur culte consistait à présenter des sacrifices d'animaux, des animaux purs, parfaits, pour couvrir leurs péchés. Malheureusement, le péché a toujours marqué l'humanité. Depuis Adam, depuis sa chute. Pour couvrir le péché. Eux, ils regardaient dans le futur. Dans le futur, à celui qui viendrait un jour pour offrir le sacrifice expiatoire des péchés une fois pour toutes. Nous regardons dans le passé. À celui qui est déjà venu et qui a porté les péchés de l'humanité une fois pour toutes. Tous, du passé, du présent, du futur, n'ont qu'un point de ralliement, Jésus-Christ le Seigneur. Qu'un point de ralliement. Les hommes ont fait tellement de doctrines, de philosophies, de religions, à tel point que ils ne s'y retrouvent plus. Ce n'est que cacophonie et désordre. Voilà. Le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront en premier. Ces hommes qui ont été enterrés partout à travers la terre, leur corps s'est dissous dans la poussière, même leurs os n'existent plus, ils sont morts dans la mer et tout cela s'est dissous. Dissous dans la mer, dans les océans, on trouve quelques squelettes de quelques milliers d'années en arrière, dans des terrains bien secs qui les ont conservés, mais il n'y a plus de chair, tout ça c'est redevenu poussière. Dieu est Dieu. Voilà. Ces morts ressusciteront. Dieu connaît leur nom. Dieu connaît leur nom. Et du reste, ces gens, ils attendent le jour de la résurrection. Ils sont au paradis. Ils attendent un corps. Ils n'ont pas de corps. Ils attendent un corps et ce corps leur sera donné. Et il semble, d'après cette lecture, que ce corps nouveau leur sera donné ici-bas, sur cette terre, au moment où les vivants seront changés en un instant. Il est dit ici, verset 17, « Ensuite, nous les vivants qui serons restés, si par exemple le Seigneur vient demain, après-demain, s'il vient dans un mois, s'il vient dans une année, je ne sais, mais il vient bientôt, et que nous soyons encore sur cette terre servant le Seigneur avec fidélité, nous les vivants donc, ça c'est pour nous, qui serons restés, nous serons changés, nous serons enlevés ensemble, avec eux dans les nuées, avec ceux qui sont morts dans le passé, à travers tous les âges. Enlevés ensemble, avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur, dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Lorsque le Seigneur viendra chercher les siens, il ne va pas poser ses pieds sur la terre. Il est dit qu'il viendra dans les airs. C'est-à-dire qu'il viendra dans cette couche de l'atmosphère qui s'appelle l'air que nous respirons. À quelle hauteur sera-t-il? Peut-être à 1000 mètres, peut-être à 2000 mètres, je ne sais pas, mais il sera dans l'air. Il ne sera pas là, dans le vide, où il n'y a plus d'air. Il va descendre dans les airs. Vous avez déjà vu un aimant, cette pièce métallique. Si vous approchez cet aimant d'une autre pièce métallique, cette pièce métallique va adhérer à cet aimant, attirer. Si vous mettez cet aimant près d'une masse de cuivre, ça ne va rien faire du tout. Près d'une masse d'un autre métal, ça ne va rien faire du tout. Pourquoi? Parce que ces métaux ne sont pas de la même nature que l'aimant. L'aimant attire que ce qui est de sa nature. Jésus, lorsqu'il viendra, va attirer seulement ceux qui ont sa nature en eux. Les autres resteront. Et cette nature nous est donnée le jour où nous l'avons acceptée comme notre sauveur. Nous devenons enfants de Dieu, nés de nouveau, c'est l'expression employée par la parole de Dieu. Nés de nouveau. Le nouveau corps est pour ceux qui sont nés de nouveau. La nouvelle terre et le nouveau ciel sont pour ceux qui sont nés de nouveau. Dieu va faire toutes choses nouvelles. Et il commence à faire les choses nouvelles en changeant le cœur des individus. Jésus disait à Nicodème, si tu ne nais de nouveau, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Quand Jésus viendra, il restera là dans les airs. Dans les nuées, est-il dit là. Donc, à la hauteur où sont les nuages, les cumulus peut-être. Et tous ceux qui sont de sa nature, les morts en Christ, les vivants, sont attirés par lui à cause de ce que sa nature est en eux. Et ils auront un nouveau corps. La Bible dit au verset 18, « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Oh oui, nous avons besoin de consolation dans notre monde. Nous avons besoin de consolation. Nous avons besoin d'un espoir. Nous avons besoin de nous accrocher à quelque chose. Et ce quelque chose, c'est quelque chose d'éternel, quelque chose de durable, quelque chose de vrai. Ce n'est pas une chimère. Consolez-vous par ces paroles. Oui, j'ai besoin de consolation. Mon cœur est serré combien de fois? Lorsque j'entends tout ce qui se passe dans ce monde, ces tueries qui ne cessent pas, ces tueries en Afghanistan, ces tueries en Irak, ces tueries par des terrorismes en Algérie, des terroristes en Algérie, ces tueries à travers le monde, cette duplicité des hommes, cette pourriture qui s'étale à tous les niveaux, cette pourriture morale. On veut faire passer toutes ces choses sales comme étant normales. L'homosexualité. On veut faire comprendre que c'est normal. On vote des lois même pour légaliser de telles aberrations. Consolez-vous. Oui, Seigneur, j'ai besoin de consolation. Les enfants laissés pour compte un peu partout. On veut la jouissance de la chair, mais on ne veut pas être responsable. On devient des lâches à tous les niveaux. Et vous vous étonnez que la colère de Dieu ne va pas tomber sur ce monde? Comme je l'ai déjà dit, avec Dieu, il n'y a pas d'impunité, il n'y a que de la patience. Consolez-vous, nous avons besoin de consolation. Nous luttons chaque jour pour pouvoir vivre. Le salaire est un salaire de misère. Certains profitent au-delà. Ils prennent le salaire des autres. On est là à chercher à survivre malgré tout. On vend des petits articles au bord des routes, un peu partout à travers la ville de Kinshasa. Certaines rues, vous n'arrivez même plus à passer comme il faut. Tout est occupé par des petits marchands qui vendent tout ce qu'ils peuvent vendre. Ceci nous montre l'état de catastrophe de notre société. Une société désorganisée. Je ne sais pas ce que ça vous fait, mais moi ça me fait mal et ça me fait pleurer. Des enfants qui m'ont dit, vous les voyez dormir là près de la route par terre, drogués. Les parents les ont abandonnés. Voilà notre société. Nous passons à côté, qu'est-ce que nous pouvons faire pour eux? Et ceux qui m'ont dit à la porte, des jeunes gens en bonne santé m'ont dit, mais va travailler, va planter ton manioc, il y a assez de terre pour cultiver. Je cherche du travail, mais le travail c'est toi qui dois le créer, le travail. Crée le travail. Sois courageux, mais personne n'a plus de courage. On a besoin d'exemple, mais l'exemple ne vient pas. On ne voit que de la magouille partout. Consolez-vous. Voilà ce que le Seigneur nous dit à nous qui sommes ici aujourd'hui. Consolez-vous. Vous êtes traités injustement. Vous pleurez pour manger. Vous ne savez pas où trouver votre subsistance. L'école va bientôt commencer. Vous vous cassez la tête pour trouver l'argent pour l'école des enfants. Vous allez mendier ou emprunter, mais vous savez que vous n'allez jamais rembourser cet argent. Du reste, vous n'avez même pas l'intention de le rembourser. Et bien souvent, les emprunts, ce ne sont que des vols camouflés. Des vols camouflés. Mais comment faire et comment vivre? Je suis un homme. Oh, j'ai entendu ça plusieurs fois. Alors traite-toi, montre-toi être un homme courageux, travailleur, de caractère, qui refuse la corruption. L'apôtre dit, consolez-vous. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Si on analyse la situation, le sida, sournoisement, qui rampe dans nos rangs, à cause de l'immoralité, de la sottise des hommes et des femmes, et qui se propage dans les ténèbres, et qui, après avoir infecté je ne sais pas combien de personnes, tout d'un coup on découvre, et c'est trop tard. Oh, on essaye d'avoir un vaccin, ben oui, mais il y a d'autres maladies encore qui sortent. Ce que l'homme sème, il le récoltera. Paul, l'apôtre, considérait comme vital et de grande importance que nous sachions ce qui se passe, dès que la vie de ce corps physique est partie. Il voulait que nous sachions ce qui se passe. Voilà. Et que l'homme, l'individu, dont la vie physique s'en va, ce qu'il fait, où il va. Il dit, nous l'avons lu, nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont endormis. Quand le Seigneur viendra pour chercher les siens, il ne posera pas ses pieds sur cette terre. Et ça, nous l'avons dit tout à l'heure. Mais la trompette sonnera. Nous l'avons lu. Un son qui remplira l'univers. Seuls entendront ce son de la trompette ceux qui sont vivants quant à Dieu. Les autres sont morts. Un mort n'entend rien. Vivants dans leur corps physique, mais morts spirituellement. Ils ne pourront entendre le son de la trompette, du ralliement de tous les enfants de Dieu. La trompette sonnera. Un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette, Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront. Et nous, les vivants, nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, des hommes par milliers dans le monde vont manquer. Les journaux en parleront, croyez-moi. La télévision, la radio en parlera. On essayera d'expliquer. Et croyez-moi, à ce moment-là, vous verrez les églises remplies comme elles n'ont jamais été. Par tous les faux chrétiens qui connaissent, mais qui ont méprisé les avertissements. Ils pleureront. J'ai su, mais je n'ai pas cru. J'ai lu, mais je n'ai rien fait avec cette connaissance. Mon père est parti, mon enfant est parti, mon ami est parti. Où sont-ils? Bien sûr, il y aura des explications qui seront données. Parce que l'homme a toujours des explications aux événements qui se passent. Ils vont vous expliquer pourquoi il y a ces typhons, pourquoi il y a ces inondations, réchauffement de la terre. Il va vous expliquer, l'homme est très intelligent. Il va vous expliquer toutes ces choses-là. Mais il y en a quand même qui vont réfléchir, croyez-moi. Mais ceux-là devront payer leur salut dans le sang. Parce que l'Antichrist viendra et se manifestera. Il voudra effacer la mémoire même de Christ, voulant se faire passer pour Dieu. Tous partiront à la rencontre du Seigneur, dans les airs. Heureux ceux qui ont part à la première résurrection, est-il dit. Voilà. Nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Nous serons toujours avec le Seigneur. L'apôtre fait bien remarquer au verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. Ce que je vous dis là, dit-il, ce n'est pas de mon invention. Ce n'est pas moi qui fabrique là une doctrine. Non, non, je l'ai reçu du Seigneur. Et nous savons que Paul, au début de son ministère, Dieu l'a enlevé. Il dit lui-même, était-ce dans mon corps? Je ne sais pas. Était-ce sans mon corps ou avec mon corps? Je ne sais pas. Mais j'ai été enlevé jusqu'au troisième ciel. Et là, j'ai vu et j'ai entendu des choses qui n'est même pas permis à un homme d'exprimer. Dieu l'a fait pour Paul, non pas parce qu'il le préférait, mais parce que il voulait établir la doctrine fondamentale de cette nouvelle dispensation qui est la dispensation de l'Église, corps de Christ. Et c'est ainsi qu'il a eu des révélations qu'il nous a transmises afin que nous ne soyons pas ignorants. Ce n'est pas moi qui vous rapporte ces choses-là, mais c'est, je les ai reçues du Seigneur. Vous y croyez ou vous y croyez pas? C'est votre responsabilité. Ce que je vous enseigne ne vient pas de moi, dit-il. Et je vous le transmets. Maintenant, il y a un état intermédiaire. Quand la vie physique d'un chrétien sauvé par grâce, d'un homme qui a cru en Jésus-Christ le Seigneur et Sauveur, qui est né de nouveau, qui est un enfant de Dieu, quand cette vie physique quitte son corps, il se trouve désormais dans un état intermédiaire. C'est ce que nous voyons dans la parole de Dieu. Dans un état intermédiaire. Ce n'est pas encore l'état définitif. L'état éternel. Éternel dans la gloire. Cet état éternel dans lequel il sera. Il sera mais dans lequel il n'est pas encore, parce qu'il n'a pas encore son nouveau corps. Voilà. Sa vie est terminée. Chacun a son nombre d'années. Personne n'est maître de ses années et personne n'a le droit d'intenter à sa propre vie. Personne. C'est Dieu qui décide. Certains, il les prend jeunes. Certains, il les prend plus tard. C'est vrai. Je parle là de ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Dieu est souverain et il sait ce qu'il fait. Et ceux dont la vie se termine, puisque tout se termine ici-bas sur la terre, tout revient à la poussière, tout, pour ainsi dire, est recyclé, rien ne se perd sur cette terre. Tout subit un recyclage. Vous voyez une maison qui brûle, tout disparaît, tout est brûlé. Tout est brûlé, tout est perdu. Dans un sens, c'est vrai. Mais rien n'est perdu en réalité. Car rien ne se perd ici-bas sur cette terre. Il y a un recyclage continuel. Mais tout commence et tout finit. Au niveau humain. Au niveau de la pensée humaine et de la réalité humaine. Cet homme, donc, il part et il va au paradis. Le paradis est un lieu transitoire. Souvenez-vous que Jésus avait dit à ce brigand sur la croix, « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » Tu seras avec moi au paradis. Jésus a passé lui-même par ce même chemin. Un lieu transitoire entre notre vie du passé sur la terre et notre vie future dans notre nouveau corps après la résurrection. Ce nouveau corps nous sera accordé au moment de la résurrection. En attendant, ceux qui sont morts dans la foi sont dans ce lieu transitoire. Je vous ai parlé du lieu transitoire pour ceux qui meurent loin de Dieu, le séjour des morts. Nous en avons parlé et vu dans la parole de Dieu. Maintenant, je vous parle de ce lieu transitoire pour ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Voilà. C'est là que les morts en Christ attendent le retour de Jésus, de Christ, qui sera pour eux, ce jour-là, la résurrection dans un nouveau corps, nouveau et éternel. Le lieu où nous allons, après cette vie terrestre, n'est pas notre destinée définitive. C'est un lieu de transition, mais un lieu qui est défini par la parole de Dieu, comme un lieu de repos, un lieu de félicité, un lieu de paix, un lieu d'harmonie, un lieu merveilleux, où tous ceux qui sont morts dans la foi, dans le passé, et dans le présent jusqu'à aujourd'hui, et peut-être encore jusqu'à demain, attendent là. Ils sont en présence avec Jésus. Jésus est là avec eux. Ils ont le temps de voir, de se promener, mais ils manquent de corps. Philippiens chapitre 1, verset 23, il est dit. C'est Paul qui parle là. Et il dit, « Je suis pressé des deux côtés. » J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Voilà, il dit, je suis pressé des deux côtés. D'un côté, je veux encore rester avec vous. Vous avez besoin de la parole, vous avez besoin du ministère, vous avez besoin que je vous apporte encore des éléments de la parole de Dieu afin de vous fortifier et que vous soyez bénis et que vous receviez ce que Dieu désire vous donner. Oui. Je suis pressé de ce côté-là, mais de l'autre côté, je désire m'en aller et être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Être avec Christ, où? Au paradis. Pourquoi? Pour attendre là le jour de la résurrection et le corps nouveau qui me sera donné. Voilà. Ce lieu n'est que transitoire. Il n'est pas définitif. Ni une destination finale. Notre destination finale, c'est le nouveau ciel et la nouvelle terre dont la Bible nous parle. Le paradis est une place merveilleuse où les enfants de Dieu goûtent déjà du bonheur éternel, dans un environnement incomparable. Ils sont déjà dans la vie éternelle. La vie éternelle, ils l'ont commencé ici-bas sur la terre. Lorsqu'ils ont cru en Jésus-Christ et qu'ils sont nés de nouveau, ils ont reçu en eux déjà la vie éternelle, à tel point que quand la vie du corps physique est passée, ils ont été au paradis. Et les voilà dans la vie éternelle effective. Ils sont plus attachés à ce corps qui veut pécher. Ce corps qui connaît la vieillesse, la maladie, la fatigue, et tant de choses, et les tentations. Ce corps qui est toujours attiré par les choses que Dieu réprouve. Ce corps dont la Bible dit qu'il doit mourir à vous-même, mourir à vous-même, à vos désirs, à vos convoitises. Et que l'homme nouveau prenne toute la place. Nous avons à lutter continuellement contre cette dualité qu'il y a en nous. D'un côté, l'homme adamique, de l'autre côté, l'homme spirituel né de nouveau. Il faut que cet homme spirituel supplante l'homme adamique. C'est pourquoi il est parlé de mourir à soi-même. Voilà. Oui, nous serons avec le Seigneur dans cet environnement incomparable. Et nous attendrons là-haut ce nouveau corps. Oh, mes amis, ceux qui partent maintenant, ils auront moins à attendre que ceux qui sont là depuis très longtemps déjà. Jésus revient. Alléluia. Et ceci, c'est gratuit. Il a payé pour nous. Être avec Christ, telle est l'ambition de Paul. Et c'est ce qu'il dit lui-même. Car c'est une réalité. Vie au paradis ou au ciel. Beaucoup d'expressions, n'est-ce pas? Des choses qu'on ne peut pas véritablement définir. Au ciel, nous attendons la résurrection avec notre nouveau corps. Nous attendons aussi une nouvelle création. Et c'est là que nous serons avec notre Dieu. Lisons ensemble dans Hébreux chapitre 11, verset 16. Il est écrit là. Mais en réalité, ils aspirent à une patrie meilleure, c'est-à-dire une céleste. Là, Hébreux chapitre 11, vous qui lisez la Bible, vous savez qu'il est question des héros de la foi. Et là, au chapitre 11, il est parlé de ces hommes qui, à cause de leur foi, ont été rejetés, ont été tués, ont été jetés en prison, ont été brûlés, ont été sciés, qui ont perdu tous leurs biens, tout ce qu'ils avaient sur cette terre, et qui ont erré dans les montagnes et dans les cavernes, parce que le monde n'était pas digne d'eux, et qui ont été rejetés par le monde. Ces hommes-là, ils ne se sont pas dit « Oh Dieu, tu m'as oublié. Oh Dieu, tu ne m'as pas fait prospérer. Oh Dieu, tu m'as rien donné. Tu vois comme je souffre. Oh Dieu, est-ce que ça vaut la peine de te servir ?» Non ! Non ! Leur foi ne dépendait pas de leurs biens. Leur foi ne dépendait pas de leur argent. Leur foi ne dépendait pas de leur environnement. Leur foi dépendait de leur amour pour Dieu. Si je suis pauvre, Seigneur, je te sers quand même. Si je suis riche, je te servirai quand même. Si, Seigneur, le monde me rejette et me prend tous mes biens, je te servirai toujours. Regardez l'exemple de Job, qui malgré tout n'a jamais maudit Dieu et a rendu gloire à Dieu. Mais en réalité, ces gens-là, ils aspirent à une patrie meilleure. Cette patrie ici-bas sur la terre n'est pas bonne. Non ! Nous sommes citoyens du royaume des cieux. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Car il leur a préparé une place. Alléluia. Jésus disait bien à ses disciples, « Il vous est avantageux que je m'en aille. Je vais vous préparer une place, afin que là où je vais, vous y soyez aussi. » Préparez une place. Au verset 12, au chapitre 12, pardon, et au verset 22 du même chapitre de Hébreux 11, il est dit, « Vous vous êtes approchés de la montagne de Sion et de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades d'anges. Il y aura à ce moment-là une unification entre le nouveau ciel et la nouvelle terre. Une jonction entre le ciel et la terre. Dieu seul est éternel. Il n'a jamais eu de commencement et n'aura jamais de fin. Expliquez-moi ça, je ne peux pas. Pour nous, tout commence, tout finit. C'est pas vrai? L'intellect humain est dépassé. Laissez de côté votre intellect. La foi ne demande pas l'intellect. Oh, merci Seigneur pour la foi simple du manœuvre. Merci Seigneur pour la foi simple de l'homme de ce monde qui n'a que peu d'éducation. Si vous ne devenez comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Voilà ce que disait Jésus. L'enfant ne peut pas expliquer comment le pain est fabriqué et comment la farine sort de la terre. Mais quand il a faim, il dit « Papa, donne-moi un morceau de pain. » Et il croit que ce morceau de pain est bon. Et je crois que ce que Dieu nous offre est bon. Alléluia. Alléluia. Dieu a existé de toute éternité. Tout le reste a été créé. Par qui? Par Dieu. Il a créé le ciel. Ce n'est pas un lieu où il doit habiter, mais c'est un lieu où il a choisi d'habiter. Et la Bible nous dit qu'il choisit d'habiter avec les hommes sur une terre nouvelle et dans un ciel nouveau pour être sa résidence, pour y placer sa maison au milieu de son peuple dans une terre nouvelle merveilleuse. Comme je l'ai déjà dit, cette terre va disparaître par le feu. Il n'y a rien qui n'est pas pollué par le péché. Et tout doit disparaître par le feu. Pour l'instant, cette terre nouvelle n'a pas encore été créée. Ceux qui s'en vont sont dans un lieu merveilleux en attendant la terre nouvelle, dans la présence de Jésus, le Messie, le Christ, le roi, dans la paix, dans l'harmonie, où sont tous les enfants de Dieu, avant la résurrection. Car à sa venue, Philippiens 3, 21, à sa venue, il transformera notre corps humilié. Notre corps, c'est un corps humilié, c'est pas vrai? Nous sommes jeunes et pourtant nous avons déjà des tares dans le corps. Nous vieillissons et nous perdons nos forces. Notre physique change continuellement et il ne s'améliore pas. Il transformera notre corps humilié en le rendant semblable à son corps glorieux par le pouvoir efficace qu'il a de s'assujettir toutes choses, en le rendant semblable à son corps glorieux. Souvenez-vous quand Jésus est sorti du tombeau. Les disciples étaient là dans une chambre, toutes les portes fermées, ils avaient peur. Subitement, Jésus est au milieu d'eux. Oh, ils ont peur. Jésus dit non, c'est moi, touchez-moi. Thomas, qui avait douté en Jésus, à sa résurrection, et qui avait dit, si je ne mets mon doigt dans la marque de ses clous et ma main dans son côté, je ne croirai pas. Jésus lui dit, Thomas, mets ton doigt dans mes mains. Mets ta main dans mon côté et crois. Il l'a touché. Il avait un corps. Un esprit n'a pas de corps. Il aura dit, donnez-moi à manger. Il a mangé devant eux du poisson, du miel. Oh, ils sont tout contents. Ils le touchent, ils lui parlent. Oh Seigneur, c'est pas possible. Tu es revenu à la vie. Et puis subitement, le voilà parti. Quand ils étaient sur le chemin sur la route d'Emmaüs, le soir tombait avec les disciples. Les disciples sont préoccupés et ils parlent entre eux du sacrifice de cet homme, Jésus qui a été crucifié. Nous croyons que, il venait établir son royaume, mais maintenant il est mort, tout est terminé. Ils ne voient pas, ils ne reconnaissent pas que c'est Jésus. Ils rentrent dans cette place où on reçoit les voyageurs. Ils rentrent là, ils commandent un repas, ils s'assoient tous à table. La nuit est en train de tomber, on amène du pain. Jésus prit le pain. Elle le rompit. Un geste qu'ils ont vu faire le maître combien de fois. Et à ce moment-là, leurs yeux s'ouvrirent. Ils reconnurent le maître. Mais subitement, il a disparu. Enthousiaste, plein de joie. Et se dire, mais notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait de toutes ces choses et de tout ce que les prophètes ont annoncé et qui s'est réalisé maintenant en sa personne? Ils se sont levés, peu importe la nuit, ils sont retournés à Jérusalem pour annoncer la bonne nouvelle. Il est vivant! Voilà le corps que nous aurons, éternel, plus de péché. Plus de maladie. La Bible nous dit qu'il est le premier-né d'entre les morts. S'il est le premier-né, c'est qu'il y en a d'autres qui vont suivre. Ceux qui ont cru en lui. Frères et sœurs, êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts pour rentrer dans son royaume? Nous sommes ici-bas sur cette terre dans une transition. Après la mort, nous passons à une autre transition. Ensuite, après la résurrection, alors, nous irons sur cette nouvelle terre qu'il a préparée. Il y a beaucoup de choses à dire. Revenez dimanche dernier, prochain. Seigneur, merci, ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité, Seigneur. Nous croyons à cette vérité. Et nous prenons courage. Tu le dis toi-même, consolez-vous, consolez-vous. Nous avons besoin de consolation au milieu de ce monde. Nous avons besoin de consolation au milieu de cette génération perverse. Oh mon Dieu, merci pour ta parole. Qu'elle pénètre dans nos cœurs. Aide-nous à nous attacher aux vraies valeurs, aux valeurs éternelles. Faites-vous partie de son peuple? Êtes-vous né de nouveau? Tout commence par la nouvelle naissance. Pour cela, alors, il y aura un nouveau corps. Pour cela, alors, il y aura une terre nouvelle et des cieux nouveaux. Êtes-vous sur le chemin qui mène à la vie éternelle? Sinon, levez-vous là où vous êtes. Levez-vous, êtes-vous réconcilié avec le Seigneur? Levez-vous là où vous êtes, le Seigneur vous appelle. N'hésitez pas. Que Dieu vous bénisse. Y en a-t-il d'autres encore? Que Dieu vous bénisse. C'est une décision personnelle. Personne ne peut décider pour soi-même. C'est vous-même qui décidez. Mais c'est une offre que le Seigneur vous fait aujourd'hui. Il s'agit d'une décision personnelle. Ceci dépend de moi. Ceci dépend de toi. Vas-tu rentrer dans le royaume? Auras-tu ce corps nouveau qui t'est promis? Si tu n'es pas sûr, alors lève-toi où tu es et le Seigneur te donnera gratuitement. Il a déjà payé pour toi. Que Dieu vous bénisse. Oh Jésus, 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 Jésus. Il n'y entrera rien de souillé, ni personne qui s'adonne à l'abomination et au mensonge, mais seulement ceux qui sont inscrits dans le livre de vie. Seigneur, mon Dieu, tu vois ces hommes et ces femmes à travers cette salle qui, touchés par ta parole, Seigneur, se lèvent là, publiquement devant tous, pour exprimer, Seigneur, leur désir qu'eux aussi rentrent dans les parvis éternels. Eux aussi reçoivent ce corps nouveau. Mais Seigneur, ceci ne peut se faire qu'à travers la repentance, la nouvelle naissance, le choix délibéré et individuel de la direction choisie. Ô Jésus, tu les connais, Seigneur, chacun d'entre eux. Tu connais aussi ceux qui n'ont pas osé se lever. Parle-leur, Seigneur. Fais-leur comprendre qu'il s'agit d'une décision personnelle, individuelle de chacun. Ô mon Dieu, inscris le nom de chacun dans ton livre, je t'en prie, et que chacun décide à abandonner le péché et à te suivre, toi, Jésus, le Sauveur. Merci, Père. Reprenez vos places. Seigneur, je t'en prie, sanctifie maintenant cette offrande que chacun de tes enfants vont te présenter. Tu sais que pour beaucoup, Beaucoup, c'est même un sacrifice que de donner cette dîme ou cette offrande. Mais tu ne permettras pas que cela manque à qui que ce soit. Tu pourvoiras pour les besoins de tes fidèles. Et tu donneras la sagesse pour l'utilisation de cet argent, afin de proclamer ce message par tous les moyens possibles et que beaucoup reçoivent la vie. Merci, Seigneur.
Vu l'heure, nous allons écouter et communiquer un message.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.